part et des responsabilités pour lesquelles quelqu'un qui quand même a étudié dans cette vie, quelqu'un qui n'a jamais étudié, est-ce que deux l'égalité entretenue systématique dans les citoyens entretient nécessairement un appauvrissement de tous. Ça, ça me semble impossible autrement. Oui.
Et comment vous posez et quels critères donner pour choisir les qualités qu'il faut développer ?
C'est là le gouvernement. Et c'est là où le gouvernement a le droit, c'est ce qu'on avait dit comme définition du citoyen. Qu'est-ce que c'est que le citoyen ? Et l'État est responsable de ça. C'est l'État seul qui peut le faire. Oui. C'est pas un a priori. C'est en fonction d'on est capable de pouvoir participer au gouvernement. Quelqu'un qui est incapable de participer au gouvernement, a-t-il le droit de pouvoir faire que le gouvernement ne sera pas ce qu'il devrait être? C'est très délicat. Enfin, on touche à tous les problèmes aujourd'hui. Alors, c'est très difficile parce que dès qu'on dit choses comme ça. Ah, vous êtes contre la démocratie. La démocratie aristotélicienne. Le mot est très bien gardé. Le mot, ça montre que c'est, on entretient la pauvreté des gens. Or, que le point de vue politique doit au contraire essayer de faire que les gens puissent bien vivre. C'est-à-dire qu'il y a une montée.
Moi aussi, c'est une caricature du bien vivre.
Ah, c'est la caricature par le bas.
Je voudrais poser une question sur les deux définitions, sur les deux premières définitions du citoyen. La première, Aristote dit, elle s'applique surtout à la démocratie, mais là, il prend la démocratie en bonne part. Tu as vu le vocabulaire, il faut le temps.
Oui, c'était
très délicat. Il la corrige en disant, il faut chercher une définition plus analogique. Alors moi, j'aurais posé la question suivante, est-ce que ça voudrait dire que ce serait dans la politie, pour Aristote, que le citoyen serait le plus citoyen? Donc, ce serait la meilleure constitution.
Alors, ça, c'est très délicat. On dira ça l'an prochain. Non, quittons pas. Je crois qu'on reviendra là-dessus. Parce que c'est évident que la définition du citoyen est liée nécessairement à la politique, donc à la constitution. Ça ne peut pas se séparer. L'homme n'est pas par nature, mais l'homme est fondamentalement citoyen, mais il n'est pas formellement dès son berceau. Il devient citoyen. Comme il devient vertueux. On n'a plus du tout cette notion-là. Il faut bien la reconnaître. On ne devient pas, aujourd'hui, on ne devient pas citoyen. On est citoyen parce qu'on est né dans tel pays et qu'on. Peu importe ce que vous avez, j'ai plus d'espoir d'entendre, vous êtes citoyen. Alors là, c'est pas du tout ça. On devient citoyen comme on devient vertueux. Donc, ça qualifie l'homme être citoyen. Et ça le qualifie en fonction des différents régimes. Tout à fait d'accord. Et c'est ça qui, je crois, est intéressant, parce que ça fait comprendre comment un régime a la responsabilité de faire devenir des citoyens. Et ça, ça répond à la question que vous aviez posée là-bas. C'est que chaque forme de gouvernement a une responsabilité de faire des citoyens, qui soient de vrais citoyens. Capable de porter la responsabilité de l'État et du bien-vivre. Parce que pour nous, nous avons une notion du citoyen qui est la notion d'être né dans le pays originaire. Ou alors on acquiert, parce qu'au fond c'est ça, on acquiert l'homme, on acquiert la nationalité, tout simplement, en payant une petite somme, rien du tout. Alors on devient citoyen. On peut devenir citoyen. C'est comme ça de divers pays, en payant. C'est pas être citoyen. Ça qui est merveilleux. C'est pas une question d'argent. C'est une question de vertu. Oui.
Ce que veut dire, avec ça, c'était à la fin du chapitre, quand il semble bien que les peuples
ont une aptitude naturelle à fournir certains, à fournir des citoyens qui ont un bon soldat, d'autres qui ont un bon soldat, ça ne fait pas cette aptitude.
Oui, il y a des petits naturels. Les petits naturels, être un artiste.
Oui, mais comme il semble bien que certains peuples ont une aptitude à fournir.
Oui, oui, parce que certains gouvernements favorisent ça. Il y a des gouvernements qui favorisent la force, il y a des gouvernements qui favorisent, vous voyez, c'est très curieux. Des formes de gouvernement, et ça je crois que c'est ça. Alors là, il reprend Platon qui lui disait ça naturel, pour arriver ça, c'est pas naturel. C'est une question d'éducation. Alors que pour Platon, on naissait avec un corps d'or, vous étiez magistrat, ou roi. Par naissance, non, vous naissez avec un corps d'argent, d'airain.
C'est cette responsabilité du gouvernement de former des citoyens qui fondent son rôle d'éducateur.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est si important la paille des liens dans la philosophie. Je comprends que vous n'aviez pas le temps de le voir, mais au fond, c'est une chose très très importante. Parce que c'est les deux choses qui se tiennent. Mais la païdéia, c'est la causalité efficiente pour réaliser des petits pour l'État. S'il n'y a pas la païdéia, l'État va à la faillite. Parce qu'il n'aura formé personne. Il faut qu'il forme des citoyens capables de prendre la responsabilité du bien commun dans leur responsabilité.
Alors, du coup, la discussion de l'autre jour sur l'éducation, oui. est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'abord, de l'État ou de la famille? Est-ce qu'on retourne le problème?
C'est évident qu'il y a là quelque chose de très important à voir. Vous touchez les deux choses, parce qu'au fond, vous voyez que ce n'est pas uniquement la famille, c'est aussi l'État. Ce que du reste, je crois. Je crois que c'est une coopération entre les deux. Ce n'est pas uniquement la famille. La famille ne peut pas aboutir entièrement à ça. Parce que la famille, alors, dépasserait l'État, venez. Elle n'est que le fondement. Elle n'est que le fondement de la communauté politique. Elle n'est pas la communauté politique. Or, c'est la communauté politique qui donne le bien-vivre. La famille ne donne pas le bien-vivre. Oui. Ah, c'est pour ça que c'est complexe, la question de la païdéia.
Les deux éducations ont quand même deux finalités différentes.
Qu'est-ce qu'il y a?
Les deux éducations ont deux finalités différentes.
Et une finalité, la vertu. C'est là où ça se rejoint. On a un petit point très important, mais c'est très délicat. Est-ce que le bon, on a fait comme vous avez touché le point de vue de la perfection du citoyen? La perfection du citoyen, c'est la vertu. La perfection de l'homme, c'est la vertu. Alors, y a-t-il deux vertus, la vertu du citoyen et la vertu de l'homme? Est-ce que vous dites deux éducations? Alors, je vous pose la question. Je vous renvoie la balle. Est-ce qu'il y a deux vertus différentes, la vertu du bon citoyen et la vertu de l'homme tout court? Oui. Oui, il y a répondu. Il en a parlé, mais c'est pour préciser maintenant. Bon, ça. Y a-t-il deux vertus différentes, vous voyez? La vertu du bon citoyen, la vertu qui fait le bon citoyen, et la vertu qui fait l'homme bon.
Je crois que la vertu du bon citoyen disposera à la vertu de l'homme bon. Je crois que c'est ce qui est le plus important à retenir.
Et alors, au niveau de la prudence, vous voyez, la disposition devient quelque chose de très particulier. Est-ce que la prudence d'un homme politique implique-t-elle une prudence de l'homme tout court? Ah, oui. Et alors, est-ce que la prudence de l'homme politique est une disposition à la vertu, à la prudence de l'homme tout court? Ça, c'est pas commode.
Il pose une question à un moment, est-ce que le oui. gouvernant doit-il être l'homme le plus intelligent?
Oui. Et c'est vertueux. Oui. C'est prudent. C'est la fameuse question, doit-on élire comme prieur l'homme le plus intelligent, l'homme le plus saint ou l'homme le plus prudent? Et ça demande répond l'homme le plus prudent. C'est la prudence qui domine, que pour l'exercice de l'autorité politique, c'est toujours la prudence. Oui.
Mais la prudence, c'est une vertu.
Ah, c'est une vertu morale, intellectuelle. C'est l'intelligence. Oui. Alors moi, je crois que la vertu de prudence de l'homme politique n'est pas seulement disposition. C'est aussi le rayonnement par rapport à un champ d'action nouveau.
C'est donc la disposition rejoint la...
Oui, la propriété. Et devient propriété. C'est-à-dire un rayonnement de la vertu de prudence habituelle. Il y a comme un rayonnement sur toute une matière que d'habitude l'homme prudent personnel ne voit pas, mais là, il doit le voir.
Comment peut-on distinguer par rapport à Platon, le philosophe froid ? Parce que...
C'est-à-dire que pour Platon, le philosophe roi est vu uniquement du point de vue contemplatif, et il n'y a plus de les vertus morales ne sont que des applications. Tandis que pour Aristote, les vertus morales se découvrent par les activités et s'acquièrent. Vous voyez ? Autrement dit, il y a une finalité propre pour le bien commun, que pour Platon, il n'y a pas de finalité propre du bien commun. On ne peut pas dire qu'il y a une finalité du bien commun chez Platon. C'est simplement l'application de la contemplation. Tandis que là, il y a une vraie finalité. Donc, s'il y a une vraie finalité des biens communs, il y a donc des principes propres. Et c'est en ce sens-là qu'on peut distinguer la vertu du bon citoyen et la vertu de l'homme, tout en voyant le lien qui existe entre les deux. Et le lien, comme vous dites, est analogue au lien entre le bien commun et le bien personnel. Le bien personnel vous donne la béatitude d'être bien heureux, tandis que le bien commun ne vous permet jamais, au sens strict, d'être bien heureux.
Mais est-ce que quelqu'un peut vraiment participer au bien commun d'une communauté sans avoir une vie personnelle, sans avoir une expérience d'un bien personnel ? Est-ce qu'on peut... Est-ce que quand on possède, quand on possède la vertu politique, alors la vertu politique, c'est l'opinion vraie, je ne sais pas très bien.
La vertu politique implique-t-elle la vertu morale ?
Est-ce qu'il n'y a pas une discours ?
Au fond, c'est les rapports entre l'agir et le facere dans le point de vue politique. Oui. Et je crois qu'on doit dire qu'il n'y a pas possibilité vraiment d'avoir une vraie vertu politique sans une vertu personnelle. Et c'est sans doute pour ça qu'Aristote a d'abord donné l'éthique personnelle, avant de donner l'éthique politique.
Oui. On a un peu l'impression quand même, dans la démarche du chapitre 4, là, il prend les choses, il me semble, dans un ordre génétique.
Tout à fait.
Il constate, il est très proche de l'expérience, il constate qu'on fond tous les hommes n'ont pas les vertus, c'est pour ça qu'il faut les éduquer.
Oui.
Mais que pour que la communauté soit vivable, il faut au minimum une vertu politique fondamentale qui est la vertu d'obéissance. Mais en fonction de ça, il faut encore éduquer les hommes. Il me semble que c'est vraiment l'ordre génétique là, qui est pris. Ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine vertu politique qui n'a pas encore le soutien de toutes les vertus morales.
Et la vertu d'obéissance, elle est du reste très particulière.
Qu'est-ce que c'est
Je crois que c'est la coopération, c'est beaucoup plus ça. C'est la possibilité de coopérer avec celui qui est exercé. Vous voyez, au fond, et ce serait très intéressant de bien voir ce qu'est cette vertu d'obéissance sur l'histoire. Parce qu'en éthique, quand il n'en parle pas, en politique, il en parle au point de vue du citoyen. Et au fond, c'est la possibilité de coopérer à l'égard du bien commun. C'est intéressant parce que, vous voyez, dans au point de vue théologique, après le Concile, on a voulu, vous savez bien, retransformer toute l'autorité et toute la question de l'obéissance. Alors on a dit qu'il y avait deux manières de considérer l'autorité. L'autorité avant Vatican II, et l'autorité après Vatican II. Les jésuites, très très intelligents, ont fait des conférences très importantes là-dessus. Et j'ai pu les écouter du reste, ça m'a beaucoup intéressé. Alors on disait que l'autorité avant Vatican II était une autorité féodale, après Vatican II, c'est une autorité démocratique. Alors, verticale et horizontale. Et alors on ramène toute l'obéissance une sens religieux, de façon générale, et la jouissance dans l'Église, uniquement au bien commun. Et alors je me demande s'il n'y a pas une confusion entre ce que représente l'obéissance d'Aristote, qui est une obéissance en vue du bien commun. Oui. Qui est une, c'est bien une obéissance. Le mot obéissance, c'est une obéissance commun. Oui, vous l'écrivez.
Helléniste.
Et parce que c'est intéressant, c'est une chose très intéressante. Oui.
Archestal, archen, commandé, archestal, le passif.
Oui. Oui.
Être commandé.
Être commandé. Être commandé, c'est beaucoup plus dans la. C'est vrai que.
C'est être commandé.
Mais être commandé.
Être commandé et obéir, c'est très différent finalement. Oui, on voit les choses de deux manières complètement différentes.
Je crois aussi.
Je crois c'est pour que ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce à propos de. À propos de, des trois formes d'autorité, justement, de, du maître esclave, enfin le maître, le père et.
Ah, ça, c'est Aristote.
Qui... C'est Aristote, c'est ça oui. Oui, mais le maître, je dis que Aristote présentait l'autorité du maître sous une forme un peu différente de celle qu'on avait vue au chapitre 1.
Oui, tout à fait. D'accord, tout à fait.
Parce que,
non, non, c'est ce qu'il a souligné, du reste, qu'il y a un petit passage qui est assez différent quand il dit à propos du maître.
Hein. Oui, mais c'est là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est les trois formes d'autorité qui, en fonction de l'intérêt de celui qui est commandé, justement. L'autorité du maître, c'est en fonction de l'intérêt de celui qui commande. L'intérêt du père, c'est l'un ou l'autre, celui qui commande et les commandés. Et l'autorité du magistrat, c'est uniquement l'intérêt de ceux qui sont commandés. Et ça fonde justement.
Je veux dire, l'inverse. L'autorité du père, c'est celui qui est commandé qui est vu en premier lieu.
Oui, mais éventuellement aussi celui qui demande.
Accidentellement.
Accidentellement. Oui.
Accidentellement.
L'autorité politique, c'est vraiment réciproque.
Oui, mais c'est exactement ce que je veux dire. Parce que j'ai cru que Benoît Emmanuel disait qu'il y avait dès l'autorité du maître avec l'esclave, une corruption avec le pouvoir. Or, ce n'est pas nécessaire. L'autorité du maître n'est pas forcément corrompue par.
C'est-à-dire qu'il y a une négation de la personne, de l'esclave. Il y a déjà ce rapport un petit peu dialectique, il n'y a plus de coopération, on ne recherche plus le bien de l'esclave, on recherche le bien particulier du maître.
C'est là que
c'est-à-dire que je crois qu'il y a un petit passage ici qui est évidemment assez différent de ce que on peut voir et ce qu'on avait vu à propos de l'esclave, n'est-ce pas ? Il y a deux points de vue un peu différents. Alors, je crois que ici Aristote regarde que de fait, l'autorité du maître, de facto, par rapport à l'esclave, c'est très vrai, c'est le bien aussi de l'esclave d'être commandé. Il en a besoin, parce qu'il ne pourrait pas par lui-même pouvoir se faire. Mais cependant, dans cette autorité, le plus grand bien est pour le maître.
Ça contredit le niveau.
Oui. Contredit pas.
Non, c'est pas en contradiction.
Non, je ne crois pas, je ne dirais pas que ça contredit. Je dirais que ça montre que, de fait, il n'y a jamais égalité. Et que l'exercice de l'autorité par rapport à l'esclave, c'est pour bien de l'esclave. C'est très vrai que normalement, il doit avoir le même but. Mais qu'en définitive, l'exercice de l'autorité du maître apportera plus au maître qu'à l'esclave. Je dirais, voyez, par exemple, un cours qu'on essaie de faire avec le plus d'amour possible pour les étudiants. Bon, ce cours profite plus au maître qu'à l'étudiant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il profite plus au maître. On ne peut pas nier. Et on ne peut pas nier. Voyez ? Parce que de fait, il y a deux activités qui se font en même temps et qui se coopèrent en même temps. Et comme le maître, normalement, doit avoir des qualités plus grandes, il profite plus de son action. Alors est-ce que c'est pas ça qu'il regarde ici ? Comme on est en politique ici, est-ce que c'est pas ça qu'il regarde ? Que de fait, quand il s'agit de la coopération du maître et de l'esclave, il n'y aura jamais égalité entre les deux. Le maître, par définition, même s'il le fait pour l'esclave avec le plus d'amour possible pour son esclave, l'exercice de son autorité lui apportera plus qu'à l'esclave.
Parce que tu dis tout à l'heure que le maître possède son pouvoir.
Et or, Aristote dit exactement que l'autorité du maître disparaît avec l'esclave. Donc ça prouve que c'est pas de son apport.
Ah, c'est non, son apport, c'est non, ça c'est le point de vue de l'exercice. Oui. C'est du côté de l'exercice. Parce qu'on ne parle pas d'une relation. C'est pour ça que le maître a besoin de l'esclave. Oui. Pour pouvoir exercer son autorité. Si l'esclave disparaît, le maître disparaît. Je crois que c'est ça qu'il veut dire là. Oui, condition sine qua non pour que l'exercice de l'autorité du maître puisse se réaliser.
Oui, mais ça prouve aussi que c'est pas nécessairement une corruption d'autorité.
Ah, c'est pas une corruption.
C'est une forme d'autorité.
C'est une forme de l'autorité, c'est pas une corruption. Non, vous avez, à un moment donné, c'est parce que je crois que vous avez voulu introduire quelque chose qui n'est pas dans Aristote, mais que je vois très bien la distinction entre l'autorité et le pouvoir. Ce n'est pas au sens strict ici dans Aristote, c'est ça que je voulais souligner moi aussi. Parce que je vois très bien que la corruption de l'autorité tombe dans le pouvoir. Mais l'exercice du maître à l'égard de l'esclave n'est pas une corruption d'autorité. C'est un exercice d'autorité. Et même quand il dit que ça sert plus au maître, même quand il dit que ça sert plus au maître, je dirais, il souligne là quelque chose qui montre que cette coopération qui se fait entre le maître et l'esclave, qui fait qu'il y a une certaine unité entre les deux, et que tous les deux, c'est pour le bien des deux, cependant, même là, eh bien c'est plus pour le maître en tire plus de profit. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il est celui qui exerce l'autorité. Et qu'il est plus noble d'exercer l'autorité que d'obéir. Moi, je crois que c'est ça qui souligne là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est différent comme perspective du livre 1, où dans le livre 1, il voulait montrer comment il y a quelque chose de naturel dans l'exercice de l'autorité, la distinction entre le maître et l'esclave. Alors, il soulignait un aspect. Donc, il soulignait que c'était le bien commun des deux. Ici, on est engagé dans un point de vue déjà beaucoup plus de structure politique. Et donc, dans la structure de l'autorité politique, l'exercice du maître, même s'il est tout à fait s'il est légitime, quoi, elle ne peut pas apporter plus. Et ça ne peut pas nier. Parce que quand on fait la même activité, deux personnes font la même activité, l'un la fait avec une capacité plus grande de vertu, eh bien il en profite plus que l'autre.
Oui. Je voudrais quand même souligner une formule.
Oui,
c'est quand même troublant.
Dites.
L'autorité du maître, bien qu'elle ait à la vérité un même intérêt pour l'esclave par nature et pour le maître par nature, ne s'en exerce pas moins dans l'intérêt du maître et seulement par accident dans celui de l'esclave.
Mais attention, attention.
C'est quand même faible.
Oui, mais là, non. Mais je crois qu'attendez, l'intérêt, c'est quoi? Attention, parce que c'est mal traduit.
Sulfeum.
Sulfeum.
Comme vous le dites.
Ah, oui. C'est plutôt l'utilité.
Comment hein?
L'utilité. Ça c'est vrai, au point de vue de l'utilité. Qu'est-ce qui commande, c'est le maître. Et par accident. Vous voyez, c'est au point de vue de l'utilité, c'est au point de vue de l'efficacité. Il y a deux choses. Hein. Il y a l'agir. Vous vous souvenez de la grosse perspective d'Aristote, c'est qu'il est l'instrument de l'agir.
Voilà, mais dans le fait.
Dans l'efficacité.
C'est là où on voit apparaître le pouvoir.
Oui,
si l'efficacité prend le pas.
Oui, on voit apparaître le pouvoir, mais le pouvoir en lui-même n'est pas mauvais. Pour l'exercice de l'autorité, il faut un certain pouvoir. Ça peut être autrement. Et c'est justement ce point de vue du pouvoir. Alors, il peut y avoir une corruption qui peut se faire, c'est évident.
Parce que quand le pouvoir devient
voilà, plus exactement. Important. Quand l'efficacité l'emporte sur la finalité. Mais au fond, je crois, ce serait intéressant à voir, parce qu'on n'a pas beaucoup souligné ces deux aspects, que d'un côté, on regarde le point de vue de la finalité pour montrer comment l'autorité du maître à l'égard de l'esclave a quelque chose de légitime, c'est bien ce qu'il voulait montrer. Et ici, il montre que l'autorité du maître à l'esclave, de fait, il y a un pouvoir du côté du maître. Et donc, c'est plus l'utilité du maître. Et puis, par accident, l'autorité de l'utilité de l'esclave. Je crois que c'est du côté de l'utilité. On est au fond, on demandera à un esclave de réaliser une œuvre. Cette œuvre, c'est le maître qui l'a pensée, et c'est pour le maître. Tandis qu'il avait montré que l'esclave, c'est un instrument du côté de l'agir. Et là, je crois que c'est très intéressant parce que ça montre très bien que dès que la finalité n'est plus première et que c'est efficiente, c'est le cas. Il me semble. Moi, c'est comme ça que je le conçois, que j'interprète. J'essaie de comprendre. Hein. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire quand on est en face de deux textes d'Aristote qui semblent à première vue un peu contradictoires, essayer de comprendre en fonction du contexte si on n'a pas de fait deux perspectives différentes. Parce que autrement, on voit tout de suite l'opposition. Il doit y avoir une unité. Moi, je plaide d'abord l'unité. Je plaide d'abord l'unité. Parce que, alors, on pourrait dire, vous voyez, ce serait intéressant, c'est ce qu'il dit souligné au début, à propos des interprètes, en disant que le chapitre 3, c'est Platon, le chapitre 4, c'est Aristote. Exactement ça. Le chapitre 3, ici, c'est beaucoup plus l'efficacité. C'est la structure de l'État, et l'État est pour l'efficacité. On s'assemble pour quand même une certaine utilité. Quand il n'y a aucune utilité à s'assembler, bon, vite on se disperserait. On vous dit on vous rassemble uniquement pour que vous fassiez, pour pédaler ou même pas, mais on ne voit aucune utilité. Non, il y a une certaine utilité qui est nécessaire à toute communauté. Une certaine efficacité qui est nécessaire autrement. Non. Bien que ce ne soit pas l'efficacité qui commande la communauté. Mais toute communauté a nécessairement une certaine efficacité. Le jour où une communauté se moralise, vous voyez, de trop et qu'elle n'a plus d'efficacité, ça devient très ennuyeux. La moralisation et le juridisme de la communauté, c'est très ennuyeux. Il faut que la communauté permette une certaine efficacité. Ça me semble très très nécessaire. L'équilibre, la santé d'une communauté. Et d'une communauté politique, à fortiori. Oui.
S'il insiste là-dessus, c'est peut-être pour insister par contraste, pour dire que, au contraire, l'autorité du magistrat est plus utile à celui qui est commandé qu'à celui qui commande. Par contraste, c'est un peu le.
Oui, oui, il y a quelque chose avec, ça c'est évident, et pour montrer de fait que ces autorités sont diverses, et que dans l'autorité du magistrat, il y a l'aspect du service qui est encore beaucoup plus impliqué. Mais maintenir le bien commun, quoi. La défense des faibles.
Est-ce qu'on peut quand même dire que si les trois formes d'autorité sont. Enfin, qu'il y a trois formes d'autorité, mais la corruption de l'autorité par le pouvoir est la même pour les trois, en fait.
Ah, tout à fait. Dès que la finalité, et au fond c'est la question d'équilibre entre l'efficacité. Moi je crois que c'est la question de l'harmonie et de l'équilibre entre la finalité et l'efficacité.
Est-ce qu'on peut dire que la finalité éclaire le statut du citoyen aussi ? C'est-à-dire que le bien commun, le bien vivre, implique à la fois des biens extérieurs et des biens intérieurs à la personne qui sont les vertus. Il touchera la cinquième définition, c'est-à-dire que citoyen empêche la réalisation du bien commun.
Là, vous voulez dire, on vous dit.
Des vertus individuelles, éthiques, la vertu. Oui.
C'est un petit peu la question de Marie-Demi, peut-être. Est-ce que les vertus. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'acquisition des vertus politiques se fait un petit peu. On n'acquiert pas les vertus politiques, puis après les vertus éthiques. Tout ça, ça
se fait. C'est sur le temps.
Croissance qui se fait.
Sûrement, dans la païdéia. La païdéia est politique, mais est en même temps personnelle. Et pour certains, n'est que politique. C'est très curieux. Donc il y a toujours un éveil vers quelque chose d'autre qu'il faut faire, je crois. Autrement, on sera rodé politiquement. Et sans aucune. Mais c'est ce qu'on disait. C'est sans méchanceté. C'est ce qu'on disait que les Bretons étaient catholiques chez eux, mais dès qu'ils venaient à Paris, ils n'étaient plus catholiques. C'est que la communauté comme telle, se tient, donc les vertus venues du citoyen. Et dès qu'on est transplanté, alors le citoyen, pour ça, c'est un très bel exemple. Il n'y a pas que les Bretons. Il y en a beaucoup d'autres. C'est le point de vue de la communauté qui maintient et qui fait que dès qu'on est transplanté, non, la vertu personnelle n'émerge plus.
Est-ce qu'on peut dire alors que le bien commun peut être une disposition au bonheur?
Le bien commun, sûrement. Sûrement une disposition. C'est le bien vivre. Le bien vivre, c'est une disposition merveilleuse au bonheur.
À condition qu'on vive bien du bien commun.
À condition qu'on vive bien. Et le bien vivre, c'est bien vivre du bien commun. Parce que vous ne pouvez pas bien vivre sans être plongé dans le bien commun. Aider, soutenir, être comme un... C'est évident que cette question des sept définitions que vous avez montrées, là, c'est sûrement une chose qui serait très intéressante à bien préciser. Et alors, voir pourquoi sept. Non. Pas quatre. La doublure de certaines causalités et le non-doublure d'autres causalités.
Pourquoi est-ce qu'il commence par le
premier? Oui, c'est ça. C'est un des aspects qui vous intéressait le plus, sûrement. Je comprends, parce que c'est sûrement là où Aristote on voit à élaborer le plus. Et que pour lui, c'est extrêmement important. Parallèlement à ça, est-ce que vous pourriez montrer la définition du citoyen chez Platon? Demandez ceux qui sont... La définition du citoyen chez Platon. Oui, il y en a un qui a fait Platon. Alors c'est lui qui vous répond.
Soit le guerrier, soit l'homme le militaire, soit le dirigeant, enfin, le contemplatif.
Oui, alors au fond, vous direz que chez Platon, il n'y a pas de définition du citoyen. Il y a uniquement la définition de tel citoyen.
C'est des clous.
Oui, il y a uniquement une manière particulière d'être citoyen. Il n'y a pas de souci de définir ce que c'est que le citoyen.
Je crois que c'est lié au fait du bien commun, parce que dans la mesure où la politique a un bien commun, il y a une qualification propre à la vie politique elle-même. Oui. Or, chez Platon, la qualification n'est pas une qualification dans la vie politique.
C'est pour ça qu'au fond, le citoyen chez Platon, c'est le contemplatif.
Exactement.
Qui n'est pas citoyen. Par définition, le contemplatif n'est pas citoyen, n'est-ce pas ? On est donc sûr. Et c'est la seule définition du citoyen. Donc il n'y a pas de définition de citoyen.
Ce qui est très étonnant, c'est d'ailleurs comment il fait le passage entre la contemplation du bien en soi à l'application immédiate.
Est-ce que le fait quand même d'avoir une fonction, même si les fonctions sont très diverses, que ce fait d'avoir un rang, une fonction dans la cité, ne suffit pas à donner un petit quelque chose quand même de
oui,
la citoyenneté?
Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de typiquement aristotélicien qui au fond est intéressant, de quand même vouloir préciser sans donner de définition? C'est pas une définition, mais c'est des approches, c'est très vrai. C'est un aspect particulier comme auquel on va essayer de préciser ce que c'est que le citoyen. Mais c'est quand même très particulier, et ça, de pouvoir vouloir découvrir cela. C'est découvrir ce point de vue-là. C'est... Aristote ne dit pas, par exemple, qu'il y a une vertu familiale. Il y a des vertus de citoyens. Au sens absolu. Il y a des vertus personnelles dans la famille, mais pas vertu familiale au sens absolu.
Par rapport à la fonction, il se demande à la fin du chapitre 5, si l'artisan est citoyen. Et c'est peut-être là où il parle de l'intelligence du bien commun. Est-ce que l'artisan a suffisamment
si sa prudence est suffisamment développée.
Il dit qu'il n'est pas citoyen.
L'artisan.
Je crois.
Vous croyez l'artisan.
Ça dépend de la définition qu'on donne comme citoyen. À la fin du chapitre 5. C'est ça dans la discopathie.
Alors, Kessia, dites-le.
Car on ne peut s'adonner à la pratique de la vertu si l'on mène une vie d'ouvrier ou de manœuvre.
Ah, c'est pas l'artisan. Hein. C'est l'ouvrier et le manœuvre. Oui. Vous l'avez c'est...
Non, je ne l'ai pas.
Si cependant l'artisan est aussi citoyen, il ne faut plus dire que cette perfection du citoyen dont nous avons parlé qualifie n'importe quel citoyen, ni même l'homme libre à ce seul titre, mais uniquement ceux qui sont libérés des tâches indispensables.
Des tâches artisanales.
Indispensables, oui. Quant à ces tâches indispensables, ceux qui s'en chargent pour un particulier sont des esclaves, ceux qui s'en acquittent pour la communauté sont des ouvriers ou de petits salariés, des manœuvres.
Il y a des esclaves, mais c'est des ouvriers.
Et les petits
manœuvres. Et les artisans.
Les artisans. Oui.
Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est pour ça. Vous croyez que l'artisan était citoyen?
C'est la phrase d'avant.
Oui.
La cité parfaite, elle, ne fera pas d'un artisan citoyen. Au temps ancien, certes, les artisans dans certains États étaient des esclaves ou des étrangers. Ceci explique qu'un grand nombre de travailleurs le soient encore aujourd'hui. La cité parfaite, elle, ne fera pas d'un artisan citoyen. Ouais.
Ça, c'est très curieux. Oui. Parce que c'est technes.
Et je crois que dans tout paragraphe suivant, il montre que ça dépend des constitutions.
Oui, mais là, il prend la constitution parfaite.
La constitution parfaite.
Donc, le citoyen parfait. Dire que l'artisan n'est pas le citoyen parfait, ça, plus ou moins, on comprend. Vous voyez ? Mais la phrase est plus forte que ça, parce qu'une cité parfaite ne fera pas de l'artisan un citoyen. Ça, c'est très délicat.
Est-ce qu'il y a une cité parfaite pour l'instant ?
Quoi ? Non, il n'y a pas de cité parfaite.
Ça n'existe pas.
Oui.
Et où est-ce qu'il dit la notion de durée, alors ? La durée de la vie dans la cité. Comment on peut arriver à une cité ?
Ah, ça, il en traite après dans les régimes. La question de durée demeure dans les régimes. Vous voyez, c'est à propos des régimes qui traitent ça.
En particulier, quand il dit que tel citoyen, qu'on ne peut pas considérer comme citoyen quelqu'un qui est rapporté à la cité.
Oui, oui.
Donc, si on peut considérer comme citoyen des personnes très précises, quelle est la... Comment on peut durer?
Oui, parce qu'on pourrait se dire, vous voyez, quelqu'un de très qualifié qui vient dans notre pays, immigré, qui entre dans un pays et qui est très qualifié, très capable de comprendre, il est peut-être un citoyen comme un autre. Vous voyez? Alors, évidemment, il y a toute une notion, je crois, qu'il ne faut pas oublier, surtout quand on est en politique chez Aristote. Dans l'éthique d'Aristote, dans la métaphysique, Aristote arrive à dépasser beaucoup le conditionnement, presque totalement. Le nous séparer. Dans la politique, dans l'éthique, il est beaucoup plus dépendant du conditionnement de l'état dans lequel il se trouve. Et dans la politique, encore beaucoup plus. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'au fond, la politique, on est devant le pouce. Donc, on fait pas une politique idéale. On fait la politique telle qu'elle nous est présentée. C'est tout le traité des constitutions d'Aristote. Hein. C'est toutes les constitutions qui existent à partir des constitutions qu'il traite de ces choses-là. Oui. Donc il y a un réalisme, voilà ce qui se fait. Je constate que l'artisan comme tel est trop occupé à son travail manuel, c'est très difficile pour lui d'être un citoyen. Oui. Parce qu'au fond, c'est ce que vous aviez soulevé au point de départ, que vous avez demandé quelle méthode. Vous avez eu raison de se poser la méthode. Donc quatre négations qu'on rejette. Ça ne sont pas des citoyens. Puis après, on donne. Alors, quelle est la méthode? Vous voyez, au fond, si on essaie de saisir l'homme, puisque on doit saisir par rapport à l'homme, c'est Aristote saisit l'homme en éthique. L'homme est très proche en éthique. Il est déjà plus loin en politique. Alors, est-ce que en politique, on n'est pas toujours en face du pos? Il n'y a pas de principe. toujours la grosse question.
Il y a une philosophie.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a une philosophie politique.
Dans l'éthique. Inséparablement liée à l'éthique. Je crois qu'éthique et politique sont inséparablement liés. Et je crois qu'il n'y avait pas de philosophie politique sans l'éthique. C'est impossible. Oui. Donc, y a-t-il un vrai principe propre en politique ? Je crois pas. Oui. C'est pour ça que la question là, des définitions du citoyen, c'est très descriptif.
Sans qu'il cherche.
Oui, c'est des approches, comme il dit. C'est très descriptif, il n'y a pas de définition du citoyen. Il y a des citoyens de fait existants comme ça.
On peut dire qu'ils sont citoyens, mais les phrases d'après sont fortes parce qu'on a l'impression qu'ils sont codifiés sur la
France. C'est pour ça que c'est intéressant.
Dès lors, sous telle constitution, l'ouvrier et le petit salarié seront forcément des citoyens, tandis que sous d'autres régimes, ils ne le seront pas. Par exemple, s'il y a une constitution dite aristocratique, où les honneurs publics sont donnés d'après la vertu et le mérite, car on ne peut s'adonner à la pratique de la vertu si l'on mène une vie d'ouvrier ou manœuvre. Dans les oligarchies, au contraire, un manœuvre ne peut être citoyen, en effet l'accès aux magistratures dépend du paiement d'un sang élevé, mais un ouvrier spécialisé peut l'être, car les artisans sont pour la plupart des gens riches. À Thèbes, il y a eu une loi qui écartait du gouvernement quiconque n'était pas depuis 10 ans retiré des affaires.
Vous voyez, comme le point de vue vertu joue. Dans ce sens-là, mais c'est là où on est totalement dans une perspective différente aujourd'hui. Je crois que ça, il faut le sentir très très fort. C'est pour ça que, vous voyez, au point de vue politique, on doit se le demander. Moi, je cherche avec vous, ça parle exactement ce que c'est que la politique. Et la philosophie politique, c'est très difficile. C'est très très difficile. Je crois qu'il y a des principes propres en éthique, et que grâce à l'éthique, il y a un mode particulier de la finalité qui est le bien commun. Et qui n'est pas au sens propre, un principe et une cause propre. C'est une cause. Un principe de finalité, mais annexe à la vraie finalité de l'homme. Il me semble. Ce qui fait que toute la politique est beaucoup plus. Vous voyez, quand Jean Vanier traite sa question du bonheur, il est très influencé en disant qu'au fond, l'éthique ne touche que l'opinion. C'est vrai de la politique. C'est vrai de la politique. Et c'est pas vrai de l'éthique. En éthique, il touche bien plus que la doxa. Il touche vraiment des principes. Il donne vraiment une vision de l'homme comme tel, finalisé. Tandis qu'il me semble qu'en politique, puisqu'il n'y a pas au sens strict de bonheur politique, au sens strict, pas de bonheur politique, il n'y aura qu'un bonheur passager, il n'y aura pas un vrai bonheur. Il me semble qu'au point de vue politique, il n'y a pas de principes propres, et on est en face d'opinion, de manière de vivre, de manière d'être, de manière de vivre sa vie vertueuse, mais qu'il n'y a pas au sens rigoureux de principe propre. C'est une question à se poser. Je la pose parce que je crois que c'est une question à se poser.
Il y a un moment, je crois que c'est dans le chapitre 4, où il dit que la vertu du citoyen, c'est l'opinion en vrai.
Oui.
C'est bien traduit.
Doxa. C'est ce qu'il me semble. Moi, je croirais très volontiers, et c'est là où on durcit terriblement la pensée d'Aristote quand on a fait des principes. Là, c'est pas des principes, il faut accepter que c'est pas des principes. On ne peut pas avoir de principes dans ce domaine-là.
Oui. Et pour faire ce discernement entre les concessions de droit et les concessions.
Ah oui, certainement. Il y a du plus et du moins dans les opinions. L'opinion, c'est la doxa, c'est parce que là, doxa pour Aristote, hein, là où on n'a pas de principe, on a une doxa. Et on doit avoir une doxa, c'est très important la doxa. C'est l'opinion, c'est une chose très importante. Au point de vue pratique, comme nous, on vit de doxa au point de vue pratique. On vit d'opinion, on n'est pas de principe. Les principes, c'est le point. Il y a des gens très vertueux qui n'ont aucun principe. Ils ont des opinions extrêmement fortes. Mais c'est ce qu'on voit en politique ordinairement. Et c'est ce qui explique les entêtements politiques. Parce qu'il n'y a pas de principe. Alors il y a une doxa extrêmement puissante. Et comme vous savez que ce n'est qu'une opinion, il faut l'enraciner dans un point de vue subjectif d'autant plus grand.
Est-ce qu'on pourrait avoir faire une analogie entre l'homme moral, au grand sens du terme, et le vivant, en disant que le bien commun serait comme le corps, un co-principe de la finalité éthique?
Oui, et si vous voulez, un co-principe je bien, c'est un analogue à la matière. Donc c'est un principe qui est tout à fait, qui est le principe du conditionnement. Mais ça revient même. Mais est-ce que ça avance de dire ça? Je ne sais pas si ça éclaire beaucoup. Parce que j'aime mieux prendre du côté de la finalité. Là, vous prenez un exemple, une analogie du côté spéculatif. Tandis que c'est beaucoup plus du côté pratique qu'on doit prendre l'analogie. C'est-à-dire, c'est du côté de la finalité propre, la finalité ultime de l'homme, qui est la finalité propre de l'homme. Oui. Oui, il y a une finalité. Tandis que là, il n'y a pas de finalité au sens absolu. Il y a une manière particulière d'atteindre la finalité. Il y a une manière particulière, oui.
Oui. Dans cette perspective, comment est-ce qu'on comprend la phrase que l'homme est un animal politique?
Ah oui. Ah oui, l'animal politique, vous avez à votre pose.
Uniquement.
Ah oui, c'est déjà beaucoup. C'est un animal politique en ce sens que c'est un animal qui ne peut s'engraisser que politiquement. Autrement, il ne s'engraisse pas. Alors, il a besoin de s'engraisser à cause de son corps.
Oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut éduquer un homme à la vertu, avec sa rigueur, et on ne peut pas éduquer un homme politique?
On peut l'éduquer partiellement, moins.
De manière moins parfaite.
Ce qui explique, du reste, les revirements politiques. C'est extraordinaire de voir ça. Les gens qui passent de...
La loi n'éduque plus aujourd'hui.
Oui, la loi n'éduque plus, il n'y a pas de dire, mais je prends un point de vue aristotélicien, si vous voulez, c'est que on sent très bien que ce n'est pas la même chose. L'enracinement d'un homme. Alors c'est ça qui serait très intéressant à voir, parce que c'est ça qu'on doit chercher au point de vue philosophique. Quel est l'enracinement de l'éthique dans l'homme? Quel est l'enracinement du politique dans l'homme?
Est-ce qu'on peut dire que l'induction du bien dans le livre de l'éthique va prendre trois modalités? On dit qu'il y a un bien suprême en voyant que les actions tendent toutes vers une fin et qu'il faut nécessairement qu'il y ait une fin ultime. Et en fait, ça prendrait tout. Il y aurait un principe unique pour toute la philosophie pratique du niveau de l'agir, mais avec trois modalités différentes, selon que l'homme est considéré du point de vue de sa finalité absolument solitaire et personnelle, la contemplation. Selon que sa vie avec d'autres, l'amitié, le bien qui est l'ami, et le bien commun, oui, qui est dans le côté politique. Oui. On aurait trois modalités pour un seul principe.
Tout à fait. Tout à fait d'accord. Il y a trois modalités du bien, au point de vue humain. Il faut maintenir ces trois modalités. Une modalité ultime, la modalité plus immanente de l'amitié, qui reste vraiment un bien personnel, et la modalité du bien commun. Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,